Bali. Alors, Rokubali, c'est une table de concertation. Donc, on rassemble les préoccupations par rapport à la ressource en eau. Et les spécialistes au Rokubali doivent quand même avoir une certaine connaissance de la faune, même si on parle surtout d'eau dans cette entreprise, donc les animaux. Et aujourd'hui, j'ai avec moi Frédéric Diotte, en fait, chargé de projet au Rokubali table de concertation. Et je t'avais déjà reçu, Frédéric, auparavant. Alors, comment tu vas?
Ça va bien, toi aussi?
Ça va super bien. Et en même temps, la chronique d'aujourd'hui, c'est surtout pour les amateurs de la faune.
Oui.
Tu vas m'expliquer un peu qu'est-ce qui se passe avec les animaux, parce que le temps froid arrive. Nous, les humains, on craint que le chauffage. Mm-hmm. Alors, c'est aussi simple que ça. Mais qu'est-ce qui se passe avec les animaux en hiver?
Bien, effectivement, avec la température là, qui a chuté significativement au cours des dernières semaines, bien, force est d'admettre que l'automne est une fois de plus à nos portes.
Oui.
Donc, pour plusieurs, cette transition-là vers le temps froid va exiger quand même une certaine préparation, hein, comme renouveler la garde-robe d'hiver, hiverner les bateaux, sortir les pelles.
C'est vrai.
Mais il faut quand même s'avouer que nous, avec les moyens dont on dispose, la plupart réussissent quand même à traverser l'hiver sans trop d'efforts.
C'est sûr.
Si ce n'est que d'une facture d'électricité qui est un petit peu plus élevée pendant la saison d'hiver.
Un peu beaucoup, oui.
Mais par contre, c'est une démarche qui est beaucoup plus intense, qui va s'amorcer chez les animaux de chez nous. Donc, ceux-ci doivent amasser quand même beaucoup de ressources et s'adapter à environ 110 jours où la température va être inférieure à zéro.
Okay.
Et ça, c'est pas rien. Donc, les manières de survivre au froid sont vraiment diversifiées, mais les espèces, il y a des espèces qui sont particulièrement fascinantes.
Est-ce que, Frédéric, tu pourrais me donner comme quelques exemples de ces espèces-là?
Oui, bien, premièrement, comme on est dans une région où les lacs abondent, bien, ça serait quand même fou de ne pas parler de pêche, hein, parce que c'est un loisir qui est très répandu chez nous. Nombreux sont ceux qui vont sortir les cannes à pêche en été, mais l'hiver est aussi une saison qui est propice pour cette activité-là, parce que même lorsque la surface de nos lacs va geler, la vie sous l'eau va continuer. Donc, certains poissons, comme la perche chaude, qui, eux, demeurent actifs et qui peuvent être pêchés aussi pendant l'hiver. Par contre, il faut savoir que quand le lac se couvre de glace, ben, tout l'oxygène qui est contenu sous cette couche-là de glace s'y retrouve coincé. Donc, la température va être très basse, puis il n'y a presque plus aucune lumière sous la glace. Et les poissons ont beaucoup moins d'énergie, ils vont tomber comme en léthargie. Ou en fait, ils tombent en léthargie. Ça veut dire qu'ils bougent
plus. J'allais te demander en léthargie, un nouveau mot.
Bien, en fait, la léthargie, c'est que les poissons ne bougent presque plus puis ils deviennent comme engourdis.
Okay.
Et puis là, en bougeant moins, bien, ils dépensent beaucoup moins d'énergie et leur respiration va ralentir également.
Qu'est-ce qui se passe avec d'autres animaux aquatiques, peut-être? Je sais qu'il y a les poissons, mais il doit y avoir d'autres choses aussi qui sont affectées.
Oui, bien, il y a beaucoup de grenouilles qui vont aussi passer l'hiver dans le fond des lacs. C'est le cas de la grenouille verte, plus précisément.
OK.
Mais contrairement aux poissons, cette grenouille-là ne respire pas par les branchies, mais plutôt par la peau.
OK.
Bon, bien sûr, la grenouille, elle possède aussi des poumons là, pour respirer à l'air libre, mais elle possède aussi une peau perméable, puis cette peau-là va lui permettre d'absorber l'oxygène. Donc ça, c'est sa particularité à elle. Par contre, comme les poissons, ben, elle est aussi sensible hein, à la quantité d'oxygène qui est contenue dans l'eau pendant l'hiver. Donc, plus un lac va être vieux, plus qu'il risque d'y avoir des algues qui sont en décomposition. Puis à ce moment-là, lorsqu'il y a beaucoup de décomposition, ben, il y a aussi beaucoup moins d'oxygène.
Okay,
donc, c'est des lacs où il risque d'y avoir plus de mortalité pour les espèces plus fragiles, comme par exemple le touladi.
OK, une espèce de grenouille en tant que telle. Et est-ce qu'il y a des grenouilles...
Le touladi, c'est un espèce de poisson.
Ah, de poisson, excuse-moi. OK, je pensais qu'on était encore dans les grenouilles. Est-ce qu'il y a aussi, y a-t-il des grenouilles qui passent pas l'hiver sous l'eau, qui passeraient ça à l'extérieur?
Oui, ben, y a effectivement des amphibiens qui passent l'hiver en dehors de l'eau, sur la terre. Puis ça, c'est encore plus remarquable, en fait, parce que ça veut dire que lorsqu'elle est longtemps exposée à des températures qui sont inférieures à 0 degré, ben, ça demande quand même des particularités qui lui permettent de résister au gel.
OK.
Donc, ces espèces-là ont effectivement des stratégies pour survivre. Puis c'est le cas, par exemple, de la grenouille des bois. Donc, sa stratégie à elle, c'est carrément, en fait, de se laisser geler.
Vivante, là.
Oui, effectivement.
Mais voyons.
Elle est comme un peu dans un état de mort clinique, mais c'est grâce, en fait, à un antigel qu'elle va préparer pendant toute l'automne en s'alimentant beaucoup plus que d'habitude.
C'est donc impressionnant.
Ouais. Puis lorsque la grenouille gèle, elle arrête vraiment complètement de fonctionner. Son cœur, sa circulation sanguine, vraiment tout va s'arrêter. Et l'eau, en fait, qui est contenue dans son corps, dans ses organes, va quitter ses organes et se retrouver dans son ventre. Il y a des petits cristaux de glace qui vont se former. Mais grâce à son antigel naturel, elle ne va jamais geler à 100%, mais plutôt comme à 40%. Puis de cette façon-là, en fait, ben, tous ces organes vont être protégés. Puis lorsque le printemps va revenir, ben, elle va pouvoir recommencer à fonctionner tout à fait normalement.
Ah, ça me fait capoter. Je vais être honnête, là, je dis ça, oui, capoter. J'ai inventé un nouveau mot, non pas vraiment. Mais vraiment, je trouve ça impressionnant comme nature. Il y a aussi, si on parle des amphibiens, des poissons, mais il y a aussi des oiseaux qu'on connaît beaucoup pour la migration. Par exemple, moi, ce qui me vient en tête, c'est les outardes. Mais pourquoi les outardes vont quitter?
Ben oui, effectivement, c'est vrai que c'est dur quand même de s'imaginer notre paysage automnal au Québec sans les immenses nuées là, d'outardes
ben oui.
qui partent en voyage. Hein. Mais l'outarde, qui est aussi appelée bernache Canada, va quitter les régions froides en hiver pour aller se nourrir en fait dans le sud jusqu'au Mexique. Puis pourquoi est-ce qu'elle le fait?
Ouais.
C'est parce qu'il fait beaucoup plus chaud, il y a beaucoup plus de nourriture, c'est donc un petit paradis là, pour les oiseaux.
Mais s'il y a autant de nourriture dans le sud, pourquoi l'outarde va pas rester dans le sud, mais elle revient ici pendant l'été?
Ouais, ben la raison pourquoi les outardes ne passent pas l'été dans le sud, c'est qu'en général, c'est des régions où il y a beaucoup plus d'espèces animales qui vont cohabiter.
Okay.
Ça veut dire qu'il y a beaucoup, beaucoup de compétition pour les ressources. Donc, c'est un endroit idéal pour faire des provisions pendant la longue saison d'hiver, mais quand la région du Nord ou les régions du Nord vont se réchauffer, ben si, dans les régions du Nord, ça demeure quand même l'endroit idéal pour la reproduction de ces espèces-là d'oiseaux migrateurs.
OK.
Ici, les animaux ont beaucoup plus d'espace, ils ont moins de chances de se faire manger par des prédateurs.
Oui, c'est vrai,
puis,
en effet.
Comme les journées d'été ici, en fait, sont beaucoup plus longues qu'au sud, mais les outardes ont beaucoup plus de temps pour nourrir les petits. Donc, finalement, même si le voyage des outardes est très long, puis il leur coûte beaucoup, ben c'est quand même beaucoup plus avantageux de partir l'hiver et de revenir l'été.
Ah, OK, je comprends. Mais là, c'est pas tous les oiseaux qui sont migrateurs. Y a-t-il des oiseaux qui vont passer l'hiver ici?
Oui, bien sûr. Ben tous les oiseaux, effectivement, sont pas migrateurs. Il y en a qui sont même adaptés à nos rues d'hiver, puis qui passent, en fait, l'année au complet ici.
Oui.
Ça, c'est le cas, par exemple, du mésanger, qu'on appelle aussi Gé du Canada, et qui est à ne pas confondre avec la mésange.
J'allais justement dire, je pensais que c'était la mésange.
mais non, c'est une espèce différente. Puis le mésanger, en fait, réussit à endurer notre climat parce qu'il a sa petite silhouette ronde, son plumage gris, puis épais, qui vont le protéger mieux du froid. On peut aussi le reconnaître avec son petit ventre blanc puis son bec noir qui est très court. Mais ce qui fait vraiment sa particularité, en fait, c'est que c'est sa manière de préparer ses provisions alimentaires, en fait, pour l'hiver.
Okay.
Parce que pendant toute l'année, le mésanger va passer tout son temps à collecter des petites baies, des insectes ou même de la viande de charogne. Donc, ses sources alimentaires sont diversifiées. Puis il va ensuite les cacher, toutes ses provisions, dans environ 1000 cachettes différentes par jour.
Ah, oh, ouais!
Puis ça, wow. C'est impressionnant parce que pendant l'hiver, il va réussir à se souvenir de toutes ses petites cachettes.
Hey,
c'est une stratégie qui est vraiment utile parce que si un animal va lui voler ses ressources dans une de ses cachettes, ben la perte est minime parce qu'il va se souvenir quand même de centaines d'autres cachettes où aller s'alimenter.
Il y a tellement de beauté dans cette nature, c'est fou. Hein?
Absolument. Ben
c'est
oui.
Vraiment bien fait. Ben, j'espère que ça vous a plu. D'ailleurs, si jamais vous êtes des amateurs de faune, et même moi qui n'en ai pas une, j'ai vraiment bien aimé ta présence, Frédéric. Merci beaucoup. Frédéric Diotte, chargé de projet au Cobali, table de concertation. Et si jamais on veut vous rejoindre, www.globali.org, j'imagine. Alors,
merci, oui.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.